L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur BFM Business en ce samedi 5 septembre 2015. Je suis ravi de vous retrouver. Et nous voilà partis pour 2 heures entières dédiées aux nouvelles technologies et l'économie numérique. C'est l'atelier numérique sur BFM Business, 16h-18h chaque samedi. Merci d'être là avec toute l'équipe de l'atelier qui est à mes côtés depuis San Francisco, Nathalie Doré, et que je salue. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Et puis dans ce studio, nous avons Antoine Cyr, Lila Megraoua, Orange Géraud. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Au menu de cet atelier numérique, vous l'avez entendu, la belle voix grave d'Antoine nous fera rêver avec son crash test. Ça sera en fin d'émission tout à l'heure. Antoine, on va parler de quoi dans le crash test tout à l'heure?
Alors, on va parler de ASV.
Ah, ben oui, ASV, bien sûr.
Vous connaissez ASV? Ah
ben, mais bien sûr, évidemment.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Je ne sais pas.
Et ben voilà. Ben, oh. Et bien. Ah ben voilà, vous.
Voyons le chat en ligne.
Ah oui, c'est ça.
Mail, le ah oui, salon de discussion. Âge, sexe et ville, c'est ça?
C'est ça.
Ah oui, c'était le truc genre ASV point d'interrogation et ah oui, d'accord. Ouais. Ah et oui, c'était vrai que c'était très romantique, j'avais oublié.
mais en fait, ASV, ça veut dire beaucoup de choses.
Ah bon, ça, oui, j'imagine.
Bien sûr. Et oui.
Ah, ça, à mon avis, ça peut dire plein de trucs.
Plein de trucs.
On verra ça tout à l'heure, ASV donc. Antoine, qu'on va retrouver tout à l'heure aussi pour le Cyber Gadget. Au menu de cet atelier aussi, notre focus startup, notre enquête de l'atelier. On va parler French Tech tout à l'heure, Lila, avec nos invités. Un invité prestigieux puisque nous aurons Marie Eklund et Olivier Mathieu, qui est le cofondateur d'une boîte que vous connaissez sans doute. Il s'agit de Price Minister. Il sera avec nous en studio. On décryptera aussi l'automobile du futur avec Guillaume de Groisse qui sera là. Et vous verrez que l'automobile du futur, son point de départ, c'est les États-Unis et la Silicon Valley. Notre passion, selon Sanette, va-t-on tomber amoureux un jour des robots, Lila?
Oui, on va avoir le plaisir d'avoir en studio Serge Tisseron, grand psychologue, psychiatre, qui s'est intéressé aux relations entre robots et humains.
Sujet quand même très littéraire, développé par Isaac Asimov.
Bien sûr, voilà. Bien sûr. Ce sera tout à l'heure. Notre French Tank Tour nous emmènera du côté de Marseille tout à l'heure et d'Aix, notre World Tour du côté du Maghreb. Et puis, on retrouvera Eric Le Bourlou, vous savez, de la rédaction de 01net.com. On s'intéressera avec lui aux gros titres d'actualité de cette semaine. Et puis le crash test pour terminer. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. On commence tout de suite donc par l'actu vue par l'équipe de l'atelier. Et nous allons donner la parole à Antoine tout de suite, tiens.
Alors, on parlait tout à l'heure du futur de l'automobile,
oui.
Mais moi aussi, j'ai des choses à vous dire sur le futur de l'automobile, surtout si vous êtes spécialiste ou fanatique, en tout cas, de Mad Max, puisque Uber a eu quand même une idée originale,
oui.
Qui est de vous proposer des courses dans les bolides. Alors, des courses, pas des courses automobiles, mais des courses de taxi, de Uber.
Parce que je croyais que c'était des courses.
Des courses.
Vous le faites avec talent et brio.
Des courses à la Uber dans des bolides façon film Mad Max.
Ah oui.
Donc ça s'est déroulé entre le 29 et le 30 août 2015 à Seattle. Lorsque vous commandez un chauffeur Uber, certains des clients donc ont vu arriver un bolide façon Mad Max avec un chauffeur qui était habillé façon Mad Max.
Ah, c'était pas Mel Gibson.
Non, c'était pas Mel Gibson. C'était pour promouvoir le nouveau jeu vidéo qui est tiré de Mad Max. C'était évidemment
Le remake de Mad Max. C'est sorti il y a quelques mois de
ça. Exactement. C'était une opération qui était évidemment réalisée en partenariat avec la Warner, heureuse productrice de ce film, même de cette franchise, comme
bien
on
sûr.
Dit. Voilà. Et puis, évidemment, là, la grosse surprise, c'est que ce Mad Max-là respecte les limitations de vitesse, évite de se battre et se comporte de façon tout à fait courtoise avec ses clients.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est donc là que s'arrêtait la similitude avec le film.
Et puis, je ne suis pas sûr qu'à l'époque, des bolides Mad Max, il y avait une petite bouteille d'eau à l'arrière du véhicule.
Non,
c'est le cas aujourd'hui.
Non plus. Cela dit, moi j'attends quand même que la riposte des taxis,
oui.
Et donc ça ne peut être que la Batmobile.
Oui, ou Mad Tax.
Mad Tax, c'est pas mal aussi. Oui. Hein? Cela dit, on n'a pas attendu les taxis pour avoir des Mad Tax.
Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Alors on va poursuivre avec Nathalie Doré depuis l'atelier US.
Oui, alors au lieu de ça, justement, le monde de l'alimentation est attaqué par de nombreux acteurs externes à cette industrie. Alors, pour les plus célèbres, on a vu Amazon arriver avec son service de livraison, vous savez, de course à domicile qui s'appelle Amazon Fresh. Google, lui, a lancé un service similaire qui s'appelle Google Shopping Express. Et il y a eu aussi des startups comme Instacart et Postmates qui sont venus se mettre sur ce créneau de la livraison. Mmh. Alors, tous ont attaqué ce marché par la livraison sans proposer vraiment de services liés à la nourriture, des recettes, des conseils. Donc, il y a une startup qui est venue se mettre sur ce créneau-là qui s'appelle Ampeach, qui est une startup donc basée à San Francisco, qui pour l'instant attaque le marché chinois et le marché US. Et donc, eux, ils ont pris une approche à contre-sens. Ils ont d'abord produit du contenu, qui est d'ailleurs produit aussi par les utilisateurs. Et ensuite, ils sont venus rajouter un service de livraison. Alors, pour revenir au démarrage, en 2013, Ampeach, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont agrégé énormément de contenu sur la nourriture, des recettes, des photos de plats. Alors, Jean nous parlait du foodporn la semaine dernière, c'est ça dont on parle aussi ici, des conseils de cuisine. Et ils ont ainsi agrégé donc 2 millions de recettes et 150 millions de posts générés donc par les mobinautes eux-mêmes et qu'Ampeach a aspiré. Bref, ils sont arrivés à constituer la plus grosse base de données de nourriture et armés de cette base géante, ils ont ensuite donc rajouté de l'intelligence pour proposer des nouveaux services aux mobinautes. Parce qu'en fait, tout se passe sur l'appli mobile, même si là, ils viennent de sortir un site, c'est plutôt mobile first orienté. Alors, quel type de service vous allez dire? Par exemple, vous pouvez choisir un ingrédient et voir quels autres ingrédients se marient avec celui-ci. Et une fois que vous avez fait votre choix d'ingrédients, on va dire compatibles, et bien des recettes apparaissent et vous pouvez après commander les ingrédients pour faire ces recettes. À l'inverse, si vous ne voulez pas partir d'ingrédients, si votre frigo est complètement vide, ben vous pouvez choisir un plat qu'un pic vous propose. Ensuite, vous choisissez le nombre de portions que vous voulez. Vous êtes 4 à la maison. Vous voulez faire 3 fois dans la semaine. Et ben un pic va vous livrer le bon nombre d'ingrédients. C'est donc très bien pour les gens qui n'ont pas d'inspiration culinaire comme moi, mais aussi très bien pour éradiquer le gaspillage, puisqu'en fait, tout est calculé en fonction des portions souhaitées. C'est donc, on parle beaucoup de food tech, là, on est sur la smart grocery, et Ampeach a bien pris le créneau. Alors, comme je vous le disais, pour l'instant, ils sont aux US et en Chine, mais je suis sûre qu'ils vont pas tarder à arriver en Europe.
Ah oui, et puis c'est bien aussi pour combattre le gaspillage, hein, c'est ce que vous disiez, c'est intéressant. Merci beaucoup, Nathalie. Aurore Géraud, depuis notre studio. Alors, de quoi allons-nous parler?
Alors, moi, je vais parler de télévision et de télévision Samsung qui s'adapte à la vision des gens. Alors, quand je dis vision, c'est-à-dire que ils ont utilisé à la fois des logiciels de eye tracking et de reconnaissance faciale pour les personnes qui ont des problèmes aux yeux afin d'adapter l'écran à la vision de la personne, en fait. Si celle-ci ne voit pas bien, eh ben, les sous-titres, par exemple, vont s'éclairer un peu plus, vont changer de couleur, vont grandir sur l'écran. Donc voilà. Et, et le but ultime en fait de Samsung caché derrière, c'est un aspect médical. L'écran pourrait dire à la personne, ça ne va pas du tout votre vision. C'est, vous avez des gros problèmes puisqu'on augmente à certains endroits de votre écran pour que vous voyez mieux. Et du coup, allez voir votre médecin. Et toutes ces données en fait de vision seraient envoyées peut-être même directement au médecin.
Ah oui.
Donc c'est un peu inquiétant aussi parce que la télévision vous regarde et récemment la télévision vous parlait aussi. Samsung avait lancé une smart TV qui pouvait en fait enregistrer. On a vu dans les termes et conditions qu'elle pouvait enregistrer ce que disaient les personnes. Donc il y a toute une inquiétude derrière. Maintenant en plus elle peut vous voir.
Eh bien dites-moi. Alors au départ on regardait la télé, maintenant c'est la télé qui vous regarde.
Tout à fait.
Mais jusqu'où allons-nous, hein? Bon, Lina Megraoua.
Bon, on va rester dans cette veine un peu, quelque peu pessimiste avant. On va continuer, ou plutôt on va commencer à parler de robots. Les Cassandres, on va dire, se multiplient, les prédictions se multiplient quand en fait à la menace des robots pour nos emplois. Ouais. On a notamment un livre qui est paru, je crois, il y a un an, de Martin Ford, qui a été optimistiquement baptisé « La montée des robots ». Et la menace pour un futur sans job, sans travail. Donc,
c'est positif,
je vais vous donner quelques chiffres.
Je vous rappelle que XIVe siècle ou au XVe siècle, les ouvriers, les gens qui faisaient détruisaient les métiers à tisser parce que c'était considéré comme une mécanique, comme une machine qui allait retirer les emplois. Bon, et c'est toujours un peu, il y a toujours une espèce de course entre la machine. Il y avait Alfred Sauvy, grand économiste, qui avait écrit un livre qui s'appelait La machine et le chômage et qui racontait cette espèce de course poursuite
entre la modernité.
Mais qui est probablement éternelle puisque à chaque fois
Bien sûr.
Il faut bien des gens pour les fabriquer, ces satanés robots.
Oui.
Mais c'est plus ou moins, cette étude va dans le sens de ce que vous expliquiez, Antoine, puisqu'à la fois, en fait, ils prédisent que l'automatisation va détruire près de 50% des postes, mais en revanche, ça va créer beaucoup plus de postes, ou plutôt ça va les amener à évoluer.
Mais sans doute des postes plus qualifiés aussi.
Tout à fait. Par exemple, vous prenez le cas du médecin hospitalier. Probablement que pour la partie diagnostic et prescription de médicaments, il va être assisté par un algo ou par des outils. En revanche, son métier va s'affiner.
Mmh. D'accord.
Regardez d'ailleurs, si vous prenez par exemple un Astérix.
Oui.
Dans les personnages d'Astérix, il y a quatre métiers principaux. Il y a livreur de menhir, gladiateur, druide et guerrier. Bon, et si vous regardez bien, le seul métier qui existe encore, c'est guerrier.
Oui, parce que des livreurs de menhir, on n'en voit plus.
Voilà, et guerrier, c'est pas forcément le métier qu'on voudrait voir rester. Voilà, donc ça montre bien que les choses changent.
Antoine, une petite news.
Oui, alors les choses changent aussi avec ce projet de diviser en deux le trottoir pour protéger les non-fumeurs du tabagisme passif. C'est au Brésil, pour la journée nationale contre la cigarette, le constructeur coréen, lui, Hyundai, constructeur automobile, a collaboré avec l'agence Marc Plus pour mettre en place un dispositif de sensibilisation dans la rue. En fait, il y a plusieurs marquages qui ont été installés au sol et qui divisent le trottoir en deux espaces, un pour les personnes qui fument et l'autre pour celles qui, grand Dieu, ne touchent pas au tabac. C'est tout, c'est une initiative de santé. Je sais pas si c'est une initiative vraiment geek, mais enfin c'est quand même une initiative c'est une innovation d'usage, voilà.
D'accord, on sera tous du même côté, hein, visiblement, nous, parce qu'on fume pas.
Non, on fume pas. Oui.
Hein, Aurore, Lila.
Non.
Très bien, parfait. Même pas une petite cigarette électronique de temps en temps.
Absolument.
Non, rien du tout. C'est parfait. Bon, vous savez quoi ? Maintenant, nous allons retrouver notre ami Jean. Jean de Chambure, qui, vous le savez, nous a lâchement abandonné maintenant qu'il est en Asie.
Oui, vous avez remarqué, d'ailleurs, il commence à y avoir un certain nombre d'analystes qui écrivent
tous très pointus.
Très pointus, qui écrivent que normalement les bourses chinoises devraient remonter après l'arrivée de Jean de Chambure en Chine.
Exactement. Justement, c'est notre rendez-vous vue d'Asie avec Jean de Chambure.
Oui, François, eh bien, c'est effectivement notre deuxième vue d'Asie, notre deuxième carnet d'Asie. Alors, je vais continuer à vous parler de WeChat parce que franchement, WeChat, c'est extrêmement intéressant, tant du point de vue des modèles, hein, dont je vous parlais la semaine dernière, que ce soit les modèles économiques de WeChat autour du jeu, autour des services qu'il propose aux commerçants, mais bien entendu également autour des usages, la manière dont les Chinois utilisent WeChat est tout à fait intéressante. Alors, pour petit mémo, le WeChat en question, c'est comme le Facebook en France, c'est-à-dire que c'est une application qui est extrêmement utilisée. On parle de 600 millions de Chinois, de plus de 600 millions de Chinois qui utilisent WeChat. Alors, parmi les usages les plus singuliers que j'ai pu observer en étant à Shanghai, eh bien, il y a le premier qui m'a vraiment frappé, que j'utilise d'ailleurs moi-même, que je trouve assez intéressant, c'est cette idée de asymétrie, ou plus exactement de asynchronie. Autrement dit, on s'envoie des messages en mode talkie-walkie, on retrouve le goût du talkie-walkie, des messages vocaux. On s'envoie des petits messages vocaux au lieu d'envoyer des textos. Donc vous mettez votre téléphone en face de votre bouche, vous le mettez de manière horizontale, un peu comme un prolongement de votre langue, et vous adressez des messages aux uns et aux autres. C'est assez asiatique comme manière de faire. On prend son temps de parler, votre interlocuteur du coup prend le temps de vous écouter, et il n'y a pas ce système que nous avons nous en France de peu de messagerie, de laisser un message. On ne laisse pas de message tellement en Chine. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de messagerie. On choisit en revanche son numéro de téléphone. Alors ça aussi, c'est assez comique. On peut choisir les numéros que l'on souhaite. Évidemment, vous le savez que le 8 est un numéro très très demandé en Chine, puisqu'il est porteur de tas de vertus liées notamment à la richesse et à l'opulence. Évidemment, si vous le faites, vous avez des chances d'être repéré par des organismes de publicité, donc faut peut-être pas forcément le faire. C'est d'ailleurs ce que recommande le guide du routard lorsque vous arrivez en Chine et vous choisissez un numéro de téléphone. Mais voilà, donc ça c'est plutôt la partie telco. Mais en tout cas, pour WeChat, clairement, le truc génial, c'est cette asymétrie du langage. Et puis alors aussi, ça c'est international, c'est vrai, mais c'est extrêmement frappant lorsque vous vous promenez le long du Bund à Shanghai et que vous observez ces allées de d'individus qui sont en train de se photographier, de faire des selfies. Alors c'est beaucoup de selfies individuelles, mais aussi en famille. Les Chinois sont très heureux, très contents. C'est le plaisir d'être ensemble, d'être soi-même, de s'envoyer après sur WeChat des messages. Ils adorent ça. C'est complètement fascinant. Voilà, donc deuxième petit aperçu de WeChat dans ce carnet d'Asie. L'autre sujet dont je voulais vous parler, qui est intéressant parce que on parle beaucoup ces temps-ci du marasme économique, du ralentissement économique chinois, mais voilà, il n'y a pas que ça du tout. Il y a aussi une économie qui est florissante, l'économie digitale, hein, dont je vais vous parler beaucoup dans l'atelier numérique. Et l'un des faits qui illustre ce dynamisme, c'est Elema. Alors qu'est-ce que Elema? En chinois, ça veut dire avez-vous faim? Eh bien, Elema, c'est une super appli qui décrypte autour de vous tous les restaurants, tous les petits services de livraison de nourriture qu'on peut vous donner. C'est un acteur qui est présent sur toutes les grandes villes de Chine, qui est détenu par Tencent, un grand concurrent d'Alibaba, qui a lui-même un concurrent. Et bien voilà, Elema a fait une magnifique levée de fonds, 650 millions de dollars, levée de fonds pour continuer, pour développer son business. Donc on voit que Elema, avez-vous faim, donc en chinois, est quelque chose qui marche bien, un bel exemple de dynamisme de l'économie digitale. À bientôt François.
Jean, merci. On revient dans un instant à la suite de cet atelier avec notre Silicon Carnet de Nathalie depuis l'atelier US et puis la sélection de gadgets d'Antoine Cyr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, les gadgets d'Antoine dans un instant. Mais auparavant, c'est notre Silicon Carnet depuis l'atelier US à San Francisco. C'est avec vous Nathalie Doré, on va parler de l'alphabet aujourd'hui.
Et oui François, vous l'avez vu cette semaine, c'est la rentrée des classes. Alors moi je vous propose qu'on révise ensemble notre alphabet. Enfin, pas n'importe lequel, l'alphabet de Google. Car pour ceux qui auraient raté la news, Google n'est plus, Google est devenu cet été Alphabet. Alors, je vous rassure, le moteur de recherche Google va continuer à exister, mais il va être une filiale parmi d'autres filiales dans cette holding Alphabet. Alors, quelles sont toutes ces filiales justement? Alors, démarrons notre petit tour d'alphabet. On commence bien entendu par la lettre G pour Google, qui va de loin rester la division la plus importante dans cette galaxie. Google conservera dans son giron le moteur de recherche, les activités de publicité en ligne, la cartographie Google Maps, le site de vidéo en ligne YouTube et la marque mobile Android. Enfin, on passe à la lettre N pour une filiale qui, elle, s'appelle Nest, la start-up rachetée de plus de 3 milliards de dollars par Google il y a un an. Désormais, Nest compte plus de 1000 employés qui travaillent sur des sujets de maisons connectées et sera, pour l'instant en tout cas, la plus grosse filiale au sein d'Alphabet après Google. Continuons notre petit alphabet en passant par la lettre C pour Calico, California Life Company, le nom d'une start-up que Google a créée en 2013 en lui donnant, tenez-vous bien, l'objectif de repousser, voire tuer la mort. Alors cette nouvelle entité est une pièce centrale dans l'échiquier d'Alphabet et regroupe les meilleurs généticiens, biologistes moléculaires et docteurs du monde entier. Tous travaillent sur des projets pour augmenter notre espérance de vie. Continuons notre jeu de piste avec F pour Fiber, le fournisseur d'accès à Internet promettant 1000 mégabits à la seconde que Google teste dans plus d'une dizaine de villes aux États-Unis. Malheureusement, San Francisco n'est pas dedans, donc on n'a pas encore pu le tester. Enfin, la lettre S pour Sidewalks, qui est le petit dernier annoncé en juin par Google. Sidewalks Lab est une entité en charge de mener une réflexion sur la Smart City. Vous savez, ces villes de futur, ces villes connectées et villes intelligentes. L'idée, là, pour Google, c'est d'améliorer la vie des citoyens grâce à ces technologies. Enfin, la lettre V pour Ventures. Fondé en 2009, c'est le fonds corporate d'investissement de Google qui a déjà financé plus de 300 startups. Google Ventures a d'ailleurs été dans les premiers à investir dans Uber, la startup qui a la plus grosse valorisation au monde, comme je vous le disais la semaine dernière. Last but not least, on arrive à notre dernière lettre, X pour Google X, le labo secret de Google qui incube les projets les plus ambitieux de la compagnie. Des véhicules autonomes pour éradiquer les accidents, aux lentilles de contact pour que les diabétiques arrêtent d'avoir à se piquer, c'est l'entité qui reprend le mieux le motto de Larry Page, « Think bigger », penser plus grand. Mais alors, avec toutes ces filiales et toute cette réorganisation, pourquoi Google s'est-il réorganisé ? En fait, avec Alphabet, Google clarifie son positionnement et apporte une plus grande transparence réclamée par les marchés. Cette nouvelle organisation va ainsi permettre aux analystes financiers de comprendre comment se comportent les activités de Google en dehors de la publicité. Alphabet permettra aussi de résoudre le challenge RH que Google rencontre aujourd'hui. Et oui, Google est une entreprise qui est loin d'être une start-up désormais. 57 000 employés et qui attire par contre toujours autant de talents. Alors, comment récompenser tous ces talents en leur confiant des projets de plus grande envergure? Comment les faire progresser dans l'organisation? Alphabet devrait répondre à cette problématique RH en créant autant de sociétés autonomes avec leur propre structure organisationnelle. Mais au fait, pourquoi Alphabet? Toujours dans son blog, Larry Page explique que « Nous aimons bien Alphabet car ce mot signifie une collection de lettres qui représente un langage, l'une des innovations les plus importantes de l'humanité. » D'ailleurs, dans le remaniement, Google n'a pas perdu son sens de la malice. L'adresse internet du site corporate est désormais abc.xyz. Et ainsi, Alphabet devient l'un des plus gros conglomérats du monde.
Nathalie Doré, merci. Et place à nos gadgets maintenant, la sélection de gadgets d'Antoine Cyr. Mon cher Antoine, nous sommes tout ouïes.
Je suis dans des gadgets de rentrée, oui. Sachant que la caractéristique des vacances, c'est que normalement, à moins d'être un peu dérangé, on met pas le réveil.
Oui, c'est vrai. Oui.
Sauf si on a une excursion.
Voilà, un truc, exactement. Voilà, bon, enfin, pour le plaisir, on
voilà,
met le réveil.
Voilà. Après, bon, vous pouvez avoir des excursions oui. Tous les jours à 7h du matin pendant vos vacances.
Bien sûr.
C'est votre droit.
Évidemment.
Mais je passerai pas mes vacances avec vous.
Vous dormirez pas à côté,
non,
en tout
non,
cas.
Voilà. Une petite excursion pendant
de
les
temps
vacances.
En temps.
Voilà, ça d'accord.
Ça va.
Mais tous les jours.
Non.
Non. Voilà. Bon. Eh bien. Là, c'est fini, les vacances, on est revenu, donc il faut se remettre au réveil et il faut se remettre à toutes ces petites techniques qui nous aident à ne pas rater les occasions de notre existence. Alors, j'ai une première appli
oui.
qui vous réveille. Celle-là, elle vous réveille dans les transports pour que vous ne ratiez pas votre arrêt. Combien de stations de métro,
oh mon Dieu, ça c'est terrible.
Combien de ont été ratés par des gens qui se sont endormis. Souvent, vous voyez de temps en temps dans le métro quelqu'un qui se lève d'un seul coup en se rendant compte qu'il a raté sa station. Il a l'impression aussi qu'il a raté la chance de sa vie. Quelquefois, ça peut être le cas d'ailleurs. Alors là, c'est plutôt un peu une opération de relations publiques qui a été lancée au Pérou par la marque de café Holly's Coffee en collaboration avec l'agence Corum Sachi & Sachi. Et c'est une application qui s'appuie sur la géolocalisation, c'est ça qui est intéressant, pour vous réveiller à l'approche de votre arrêt. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de programmer un horaire, vous avez à programmer votre destination. Et ensuite, vous pouvez piquer un petit roupillon, lire un petit bouquin.
Et oui, parce que des fois, on est concentré même dans un jeu.
Tout à fait. Et donc, l'appli va se charger de vous réveiller à temps pour que vous ne ratiez pas cet arrêt.
C'est magnifique.
Donc ça, c'est sympa.
Ah ouais.
Alors là... J'ai quelque chose de moins opportuniste, c'est un vrai réveil, et c'est un réveil qui vous réveille avec des rires d'enfant. Il s'appelle le LOLS.
Bon, on voit bien où on va,
dans quel univers on se situe. C'est new-yorkais, c'est lancé par une société qui s'appelle IDEO, je suppose qu'ils disent IDEO. Et donc le principe, c'est que vous êtes réveillé avec ce réveil par des rires d'enfants. Mais alors, évidemment, jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais ce qui est assez sympa, c'est que le rire est différent à chaque fois. Donc il y a une espèce de suspense hebdomadaire sur le rire d'enfant qui va vous réveiller chaque lundi, à partir de chaque lundi.
D'accord.
Voilà,
pas mal.
Un rire différent toutes les semaines. Voilà. Et puis alors, bon, après, il est en forme ovale. Alors, il se secoue d'avant en arrière au gré de ses éclats de rire, un peu comme un enfant qui réveille.
Oui, puis se fait réveiller par des rires d'enfant.
Voilà, voilà. Pire, il y a un petit bouton jaune sur le ventre du réveil que vous pouvez chatouiller pour le faire réagir. Voilà. Bon, c'est plutôt sympathique. Il envoie un mail, donc le réveil envoie un mail, parce que c'est un objet connecté, pendant votre trajet vers le bureau, pour vous raconter l'histoire qui se cache derrière chacun des rires qui vous réveillent différemment chaque semaine. Et pourquoi l'enfant rigole? Donc vous avez entendu l'enfant rigoler, vous êtes réveillé, vous êtes habillé, vous êtes parti au bureau, et vous allez trouver en arrivant le mail qui vous dit pourquoi l'enfant qui vous a réveillé rigolait. C'est plutôt joli.
C'est pas mal. On s'arrête là?
Ah bah oui.
Pour les gadgetos, très bien, ça tombe bien parce qu'on va revenir dans un instant, Antoine, et on va poursuivre cet atelier avec notre focus startup et puis notre enquête de l'atelier. La French Tech sera à l'honneur avec un invité prestigieux qui sera avec nous dans ce studio. Et il s'agit d'Olivier Mathieu qui est le cofondateur et le président de Price Minister. Il sera avec nous dans un instant parce qu'il prend part à cette French Tech. À tout de suite sur BFM Business.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business, un excellent week-end avec nous. Merci de nous suivre comme chaque samedi, 16h-18h. Tout à l'heure, on s'intéressera à l'automobile de demain. Qui fera l'automobile de demain? Et puis, notre passion selon Sanette aussi. On parlera de robots tout à l'heure, notre French Tech Tour qui nous amènera à Aix. Et puis notre World Tour. Et puis la rédaction de 01net.com tout à l'heure. Bref, que de bonnes choses. Et avant de retrouver notre enquête de l'atelier pour évoquer French Tech avec deux éminents spécialistes qui sont avec nous, un petit focus startup. Maintenant, c'est avec vous, Aurore Géraud.
Oui, François, je suis aujourd'hui avec Alexandra Mandic et Pierre Killy, qui sont ici pour me présenter leur startup Qualito. Alexandra, bonjour.
Bonjour.
Pierre, bonjour.
Bonjour.
Alors, Qualito, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un petit peu abstrait?
Par exemple, est-ce que vous saviez que Caramel 3, qui a un nom assez innocent, est en fait un des additifs les plus toxiques qui soit et qui se trouve dans des sodas pour ne pas nommer les marques, mais vous les reconnaîtrez. Et que, par exemple, un truc qui s'appelle acide ascorbique n'est rien d'autre que le vitamine C. Donc voilà, c'est très difficile, il y a beaucoup de noms de code, et on s'était dit qu'il est absolument indispensable de savoir ce qu'on mange pour pouvoir faire les bons choix, et on a créé Qualito, l'application qui vous permet de déchiffrer la composition de vos produits alimentaires, mais selon vos critères, donc selon vos besoins ou préférences alimentaires. Donc soit vous êtes allergique et vous avez un souci de santé, ou vous voulez tout bonnement manger sainement, donc éviter les conservateurs, les colorants, les émulsifiants, et tout ce qu'on trouve dans la nourriture d'aujourd'hui.
Si je télécharge l'application, comment ça fonctionne ?
On a plusieurs régimes alimentaires qui sont prédéfinis que vous pouvez activer. Et ensuite, quand vous faites vos courses, il suffit de scanner le code barre d'un produit et ça vous dit si vous pouvez le manger ou pas. S'il contient des ingrédients qui ne vous correspondent pas, ils seront indiqués en rouge et vous pouvez avoir en plus d'informations sur ces ingrédients.
Et c'est automatique? Comment ça fonctionne avec le code barre exactement?
Alors, le code barre ne représente en fait qu'un numéro identifiant qui identifie de façon unique un produit. Derrière ça, nous, on a construit une base de données de produits qui nous permet de relier ces identifiants, ce code barre, à des informations sur le produit, à son nom, à sa photo, mais aussi surtout à sa liste d'ingrédients sur laquelle nous, on travaille pour ensuite justement bien faire le matching entre la correspondance entre chaque ingrédient et ce que nos utilisateurs souhaitent ou ne souhaitent pas manger.
Et vous étiez donc incubé au Numa Sprint. Là, donc, c'est bientôt la fin. C'est quoi la suite pour vous?
On a un objectif un peu idéaliste. C'est que on aimerait vraiment transformer l'industrie agroalimentaire, travailler avec eux pour faire en sorte que les produits alimentaires qu'ils produisent soient toujours de meilleure qualité, avec le moins possible additifs nocifs, et aujourd'hui il y en a des toxiques aussi, donc faire en sorte que ça va vraiment dans la bienveillance, dans la transparence, parce que on est Tout d'abord consommateurs et clients de ces gens-là, donc on travaille au départ pour nous.
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un véritable mouvement des consommateurs pour consommer mieux, des produits de meilleure qualité. Et aujourd'hui, les consommateurs sont beaucoup plus regardants sur la qualité de ce qu'ils mangent. Et nous, ce qu'on veut, c'est les aider, eux, à trouver plus facilement les produits qui leur correspondent et qui correspondent à ce qu'ils veulent manger, mais aussi aider l'industrie à justement mieux rencontrer ses consommateurs. C'est pour ça qu'on... C'est la démarche qu'on a avec les industriels, c'est vraiment les aider à s'améliorer et à venir à la rencontre de ses consommateurs pour faire plus de business.
Merci beaucoup Pierre et Alexandra donc de Qualito. C'était le Focus Startup. À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci à vous. À bientôt.
Merci Aurore. Et place maintenant donc à notre enquête de l'atelier. Lila Megrawa en compagnie de nos invités. On va revenir sur cette fameuse French Tech qui fait bien des jaloux dans d'autres pays.
Mais qui fait des émules, puisque Emmanuel Macron a annoncé mi-juillet dernier l'ouverture d'un nouveau chantier pour voir comment le numérique peut moderniser l'économie. Comme vous le précisiez juste avant, Axel Le Maire a largement œuvré et œuvre encore pour structurer un mouvement French Tech. Donc, pour en parler... pour parler des enjeux de la French Tech, de s'organiser, de jouer collectif. On a le plaisir d'avoir en studio Marie Eklund. Bonjour.
Bonjour.
Marie, vous êtes cofondatrice de Daphni et co-présidente de France Digital. Et Olivier Mathieu, bonjour.
Bonjour Olivier.
Olivier, vous êtes cofondateur, président de Price Ministère et également coprésident de France Digital. Alors, vous organisez tous deux le 15 septembre prochain le France Digital Day. Vous avez choisi cette année de donner plus ou moins un accent politique. Vous le présentez comme un événement de réflexion pour réfléchir, concevoir, promouvoir le programme entrepreneurial de manière collective de demain. Est-ce que c'est urgent aujourd'hui ?
Qui commence ?
Alors je suis pas galant, je vais commencer, mais Marie corrigera, que je peux dire des bêtises en premier. On a créé France Digital, enfin d'ailleurs j'étais pas dans les fondateurs, mais Marie oui, j'ai rejoint le mouvement rapidement ensuite, sur un constat qui était que probablement le numérique en France méritait une place plus importante et que les entrepreneurs du numérique, ce qu'on appelle les start-upers aussi dans notre vocabulaire, et leurs investisseurs, qui sont souvent des fonds de capital risque, étaient mal représentés, n'avaient pas de porte-parole. Il y a plein d'instances qui représentent plein de professions en France, mais cette catégorie-là, qui est en forte croissance, était mal écoutée, mal comprise, etc. Et il y avait eu le fameux mouvement des pigeons. Vous rappelez ça. Et donc, à ce moment-là, on s'est dit, effectivement, il faut inscrire dans l'agenda politique un certain nombre de messages, de façon à populariser cette économie des startups. Et donc, évidemment, on a des exemples comme la Silicon Valley. Il y a beaucoup d'exemples en Israël, souvent des exemples en Scandinavie. Et on a beaucoup d'entrepreneurs en France aussi. Mais d'abord, ils sont méconnus. Et souvent, leur succès n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait espérer, étant donné, je dirais, voilà, la taille de la France. Si on regarde, par exemple, la comparaison avec le PIB et le rayonnement de la marque France et du pays, on devrait avoir plus de champions mondiaux. Mmh. Et donc, on se demande pourquoi. Et donc, on agit pour effectivement influencer l'agenda politique. Et ça a fait beaucoup de progrès, d'ailleurs, hein, avec Emmanuel Macron, entre autres.
Marie,
absolument. L'une des choses qu'on a faites pour montrer à quel point l'écosystème était dynamique, c'est de faire un baromètre qu'on publie tous les ans et dont la prochaine version sera publiée lors du France Digital Day, et qui montre que les startups du numérique en France, c'est 42% de croissance annuelle en moyenne, c'est 40% du chiffre d'affaires à l'international, donc en termes de compétitivité pour la France, c'est quand même assez remarquable, et que ça entraîne évidemment une croissance des emplois, avec notamment beaucoup d'emplois pour les jeunes. Et c'est également une catégorie un petit peu nouvelle d'entreprise, puisque l'écart salarial entre le dirigeant et le salaire moyen est très resserré, c'est de 2. Et en revanche, il y a un accès au capital pour les salariés qui bénéficient souvent de stock options, d'actions gratuites ou de genre de choses comme ça, ce qui est assez nouveau comme nature d'entreprise dans le paysage français, par rapport à un tissu qui était plus classiquement des PME familiales.
Et ça veut dire qu'on s'inspire un peu du modèle américain, finalement.
Absolument, oui. Et en fait, on voit qu'il y a une obsolescence des lois par rapport à cette typologie d'entreprise, où c'est peut-être pas obsolète, mais en tout cas c'est pas adapté. Qu'il faut du coup c'était pour ça. Oui, et puis c'était donner une voix pour que les gens comprennent la nature, la culture qui règne dans ces entreprises et les enjeux qui sont beaucoup autour de la croissance. On est dans une économie maintenant qui est très internationale, donc c'est on a une compétitivité qui est accrue puisque même si en tant qu'entreprise vous ne développez pas et vous ne déployez pas vos produits à l'international, les gens viennent. Donc il faut avoir un produit qui arrive à être compétitif par rapport à l'offre internationale. Et du coup, il y a beaucoup de contraintes associées à ça. Et Olivier parlait de la croissance des entreprises, qui pour nous est un enjeu sur lequel vraiment on veut mettre l'accent. Et on voit pour nous le un petit peu le symbole de ça, c'est que quand vous regardez l'âge moyen des sociétés du CAC 40, c'est 104 ans. Donc elles sont très âgées. Et on voit bien qu'on a un ascenseur économique qui est cassé. On n'arrive plus à créer de grands champions. Et donc on s'est vraiment essayé d'agir sur les points de friction à la croissance.
Moi, j'aime beaucoup la comparaison avec le CAC 40 parce que finalement, on pourrait dire que la mission de France Vital, c'est de faire émerger des champions. Oui. Donc, on pourrait dire qu'on a réussi si on parvient à faire entrer un nouveau champion dans le CAC 40 qui sera probablement issu des métiers du numérique, puisque c'est le cas des grandes entreprises aujourd'hui qui, vous savez, on parle souvent de unicorn, si vous êtes familier avec ce terme, les licornes en français, qui sont ces boîtes qui valent plus d'un milliard de dollars et qui n'ont pas encore été introduites en bourse. Donc, c'est des sociétés qui ont atteint des valorisations très importantes. Et c'est vrai qu'il n'y en a pratiquement pas des françaises. Il y en a plus de 100 maintenant dans le monde. Je crois 110, 112, 113. Enfin, récemment, ça a été de nouveau publié.
Et potentiellement, beaucoup d'Américains, pour en avoir combien des françaises? Vous avez une idée ou pas?
C'est une bonne question. Je pense que certaines vont arriver parce qu'il y en a eu quand même de plus en plus. Il y a eu cette histoire de Criteo il n'y a pas très longtemps, qui était, c'était il y a deux ans, n'est-ce pas? J'ai un trou de
octobre 2013.
Voilà, donc il y a deux ans, exactement. Donc ça a été un bon exemple d'une belle société française introduite en bourse aux États-Unis. Je crois qu'il y a un très beau succès avec la marque BlaBlaCar aujourd'hui, qui est aussi emblématique et qui vient de France et qui rayonne à l'international. Et il y en a quelques autres qui vont apparaître prochainement. Il y a eu des levées de fonds importantes.
Oui, Free aussi.
Alors,
oui,
Free est... privée.
Enfin, qui est française, qui ne s'exporte pas encore.
Alors, Free, oui, ils ont quand même quelques filiales à l'étranger, mais c'est quand même très, très fortement français. Donc, il y en a quelques-unes. Et c'est vrai que très rapidement, on cite toujours les mêmes. Donc, c'est pas suffisant, parce que si on veut créer un modèle de société française exemplaire, qui ensuite donne envie aux étudiants de rejoindre ce secteur pour créer leur entreprise ou pour rejoindre les startups en tant que collaborateur, il faut qu'il y ait une exemplarité. Et on s'est rendu compte que l'exemplarité fonctionnait très, très bien dans les grandes universités américaines. Par exemple, à Stanford, il y a eu des entrepreneurs et, par exemple, Steve Jobs, etc. Donc, on voit que ça date des années 80. Et on a eu comme ça un phénomène d'entraînement, une boule de neige très positive, où d'autres entrepreneurs se sont associés, des gens qui faisaient du business avec des gens qui étaient techniciens. Ils ont créé vraiment des complémentarités et des équipes. Et ils ont fait émerger des sociétés qui sont devenues les plus grosses du monde. Certaines sont les plus grosses du monde. Elles ont émergé depuis les années 80, 90 et 2000. Toutes les nôtres, elles datent plutôt de 100 ans avant. Donc, c'est ça notre objectif. Et c'est pas, donc, il faut développer l'attractivité du pays, c'est-à-dire donner envie à des capitaux de venir investir en France. Pas seulement dans les vignobles, dans le tourisme, dans le luxe et dans tout ce qui fait l'attractivité du pays, mais aussi l'innovation. Donc il faut réviser les critères d'innovation, puisque notre façon de penser l'innovation sont plutôt calées sur le ministère de l'Industrie et sur des schémas d'innovation et de R&D qui sont plutôt orientés recherche, mais on faut aussi qu'on pense le développement. Et le numérique, c'est aussi du développement, des nouveaux usages, par exemple. Tout n'est pas, calé sur les schémas de définition de l'innovation de la deuxième révolution industrielle, en quelque sorte. Mais également attirer pas seulement l'argent, pas seulement les entreprises, mais aussi les talents. Il faut qu'on se dise, voilà, comment est-ce qu'on ferait pour avoir des ingénieurs indiens et chinois qui choisiraient la France, par exemple, plutôt que New York ou San Francisco.
Qu'est-ce qui fait peur aujourd'hui en France? C'est le fisc aussi. C'est vrai qu'à chaque fois, on remet ça sur le tapis, toutes ces grandes boîtes américaines qui défiscalisent, en tout cas qui optimisent, comme elles disent, le fisc allemand. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas un problème aussi? Est-ce que, on n'est pas.
Quand on parle à notamment des investisseurs américains, en leur disant, mais venez investir en France, il y a trois réactions, un petit peu, en tout cas trois raisons invoquées pour lesquelles ils ont du mal à regarder le pays. La première, c'est effectivement qu'on a un épouvantail de taxation vu de l'extérieur, même si il est parfois très éloigné de la réalité. Donc c'est pas forcément c'est une image d'Épinal aussi. C'est un a priori. Pas forcément proche de la réalité actuelle, mais en tout cas, il existe. Le deuxième, c'est le droit du travail. on ne peut pas licencier en France, donc c'est très compliqué. Donc on n'a pas une flexibilité suffisante pour des entreprises qui sont en très forte croissance. Il faut pouvoir être agile. Mmh. Il y a des à-coups. On a besoin de pouvoir finalement être très très agile justement. Et le droit du travail aujourd'hui est très peu agile, notamment avec. On se rend compte qu'on a beaucoup d'effets de seuil en France. On est les champions du monde hors catégorie des entreprises de 49 personnes parce qu'à 50 personnes, il y a beaucoup de poids réglementaire qui s'ajoute et de taxes, etc. Mmh. Bon. Donc, il y a ce deuxième épouvantail-là. Et le dernier, c'est l'interventionnisme de l'État. Mmh. Il y a l'affaire Dailymotion qui a beaucoup... et qui fait peur vu de l'extérieur parce qu'on a l'impression que l'État va se mêler.
L'État l'a même mise en fait et se mêler d'affaires qu'il ne regarde pas finalement.
Absolument.
Enfin, même si l'État est actionnaire d'Orange et que.
Mais ça n'a pas été bien compris. C'est pour ça aussi que je parle d'a priori qui ne sont pas forcément, qui reflètent pas forcément la réalité. C'est que notamment dans l'affaire Dailymotion, ce qui s'expliquait se comprenait bien en France,
la communication
vu de l'étranger.
Catastrophique
ils ont pas compris.
En fait, bien sûr.
Mais je crois que l'affaire Uber, en fait, est assez proche de l'affaire Dailymotion. Évidemment, l'État n'est pas actionnaire forcément des taxis, mais la relation, en fait, entre les chauffeurs de taxi et l'effet de communication qui est autour de Uber, même s'il y a des justifications et si on raisonne, on peut comprendre que les taxis se sentent menacés et qu'il faut
c'est vrai qu'il y avait un parti pris en fait qui était quand même assez fort de la part de l'État, c'est-à-dire qu'à aucun moment il y a eu un équilibre, c'est-à-dire que l'État était contre Uber dès le départ en fait.
En tout cas, ça a été perçu comme ça.
Ça a été perçu comme
tel. Et il faut admettre que probablement aussi la démarche de Uber et la façon de faire de Uber est assez provocante de toutes les façons dans leur conquête du marché dans tous les pays d'ailleurs. Mais la réaction française a été un peu unique, donc elle a pas suscité de la sympathie, si vous voulez. Et du même coup, ce que retiennent à un moment donné les investisseurs quand ils sont à San Francisco, à New York ou à Londres, c'est voilà, la France, Dailymotion, Uber, on n'est pas les bienvenus. En gros, on n'est pas les bienvenus. Mmh. Alors qu'il pourrait y avoir une façon de faire à la française, tout en acceptant l'innovation.
Mais changer ces fondements-là, ça va être très compliqué quand même, non ?
Ben c'est pour ça qu'on se lance dans une grande réflexion. Absolument.
Bon courage.
C'est culturel, parce que c'est pas seulement... alors, il y a le code du travail, il y a le code fiscal que vous avez cité, mais il y a aussi des réactions culturelles profondément ancrées dans nos comportements, comme dans tous les pays.
Mmh. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va suivre ça de près.
Je rappelle, on peut d'ailleurs retrouver toutes ces réflexions et assister à une grande partie de ce chantier-là lors du France Digital Day qui aura lieu le 15 septembre prochain, Carreau du Temple à Paris.
Merci à tous les deux. Et vous restez avec nous, l'atelier numérique sur BFM Business revient dans un instant. A tout de suite, on est là dans quelques minutes.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
Merci d'être avec nous. L'atelier numérique sur BFM Business, le jour où mon robot m'aimera. On va en parler dans quelques instants avec notre invité Serge Tiscon, qui est psychiatre et psychanalyste et qui nous expliquera que petit à petit, lorsque les robots vont arriver, eh bien on va s'attacher à ces robots comme aujourd'hui. On s'attache à un animal ou même à un être humain. Ça est effrayant, mais ça sera le futur et la réalité dans quelques années. Ça, c'est clair. Dans l'immédiat, vous le savez, on retrouve régulièrement la web stratégie. Dans cet atelier, on va faire un break de web stratégie. On la retrouvera dans quelques semaines pour découvrir un nouveau rendez-vous qu'on va surnommer décryptage avec notre Guillaume Degroisse qui est avec nous. Bonjour Guillaume.
Bonjour François.
Directeur marketing de l'atelier. Alors Guillaume, de temps en temps, vous viendrez nous voir pour justement décrypter un petit peu toutes ces nouvelles techno qui nous entourent. Toutes ces grandes tendances dans le monde des nouvelles technos.
Exactement. Et donc aujourd'hui, on va
parler d'automobile.
Par la voiture.
Voilà, l'automobile du futur. Et imaginez à quoi ressemblera un peu l'automobile du futur. Cette voiture qui, finalement, risque de partir des États-Unis, de la Silicon Valley, hein, Guillaume.
Alors effectivement, on pourrait se dire que la voiture de demain, c'est une voiture qui se fabrique dans la Silicon Valley comme... comme un iPhone ou voilà, de la même façon.
Ça fera plaisir à Renault et Peugeot et à tous les autres.
Exactement, qui sont pas forcément en reste, bien au contraire. Mais si on regarde finalement les quelques innovations majeures qui ont eu lieu sur les dernières années, on va forcément parler de Tesla, on va forcément parler de Nvidia, on va forcément parler de Google qui est devenu absolument incontournable dans le monde de la voiture. Et puis, on peut pas s'empêcher d'avoir envie de parler de Uber quand même un petit peu.
Ouais. Alors on va parler de Tesla quand même pour commencer parce que c'est véritablement on va dire, la boîte emblématique qui nous fait penser que l'automobile du futur viendra de la Silicon Valley quand même.
Alors effectivement, il y a plein de choses dans Tesla qui nous donnent envie de penser que c'est la Silicon Valley qui fait la voiture d'aujourd'hui. Tesla, c'est quand même une start-up qui a réussi. Hein, c'est une voiture qui a, enfin c'est une start-up qui se lance en 2003, qui lance sa première voiture au bout de 5 ans en 2008. Il y a entre 400 et 500 exemplaires produits qui sont vendus en quelques mois au grand tycoon de la vallée.
Voilà, c'était chic. Vraiment la voiture à la mode qu'il fallait obligatoirement avoir, voiture de sport très très onéreuse, bourrée de technologie
et surtout green, puisque c'est la première voiture de sport 100% électrique. Et là, chez Tesla, ils sont allés très fort, c'est-à-dire un moteur ultra puissant. Ils sont allés chercher les meilleurs designers. Ils ont vraiment lancé quelque chose de complètement nouveau. Mmh. Et ils ont fait un boulot incroyable sur l'intérieur de la voiture. C'est-à-dire que une Tesla aujourd'hui, c'est quasiment un écran d'ordinateur avec des roues.
Mais je sais pas si vous êtes déjà rentré, vous qui nous écoutez, dans une Tesla, mais c'est une expérience à vivre, hein. C'est incroyable. On a l'impression d'être dans un cockpit d'avion avec de grands écrans tactiles qui sont tout autour de nous. C'est génial, en fait.
Voilà. Et avec une sorte d'immense iPad au milieu qui permet de gérer complètement la voiture. Et ce qui nous fait penser que cette voiture...
Mais c'est plus du gadget en plus, Guillaume. Je vous arrête parce que, en 2014, Tesla a vendu 25 000 véhicules.
Ah non, mais c'est...
Donc,
plus
voilà, on n'est pas dans de la folie, quoi.
Non, on n'est pas du tout dans du gadget. On peut pas faire 5 mètres dans les rues de San Francisco sans croiser une Tesla.
On commence à en croiser à Paris.
Et on commence à en croiser à Paris, garé sur des bornes d'autolib.
Il y a des taxis aussi qui roulent en Tesla.
Ah, ça, j'ai pas vu encore.
Ouais, mais j'en ai vu, hein.
Et puis, il y a quelque chose qui est intéressant aussi sur Tesla qui va me permettre de faire le lien avec Nvidia, c'est que Tesla, ils sont arrivés dans le monde de l'automobile avec ce que nous, à l'atelier, on appelle le digital mindset. C'est-à-dire cette habitude d'avoir un cycle produit qui finalement est assez court avec des updates. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut mettre à jour sa Tesla comme on met à jour son app sur son iPhone, et notre ami Elon Musk a l'habitude d'envoyer des petits tweets en disant mettez à jour votre voiture, vous allez gagner X secondes au démarrage. C'est assez incroyable, mais c'est ça qui est en train de se passer.
Et ce qu'il y a d'intéressant et d'étonnant, c'est la rupture qu'il y a entre ce constructeur et les constructeurs traditionnels qui font des voitures depuis des centaines, enfin des dizaines, voire même des centaines d'années, hein, qui eux ont un autre mode de fonctionnement. La voiture, on la met à jour que de manière très sporadique quand on va chez le garagiste, alors que là, en fait, à partir du moment où votre voiture est connectée à Internet, elle va se mettre à jour toute seule comme un smartphone ou un ordinateur.
Exactement, c'est assez fou, mais la voiture du futur, c'est un peu ça. Et puis, du coup, ça nous permet de faire le lien sur un autre grand fournisseur de l'industrie automobile qu'on n'attendait pas du tout là, c'est Nvidia.
Qui au départ faisait des cartes graphiques pour les ordinateurs. Hein.
Exactement, et qui aujourd'hui équipe 5 millions de véhicules dans le monde.
C'est énorme.
C'est quand même important, et les dernières prévisions donne pour les quelques années à venir environ 25 millions de voitures.
Mais qu'est-ce qu'ils font Nvidia?
Alors dans Nvidia, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en fait le cœur, l'ordinateur qui fonctionne à l'intérieur de la voiture. C'est-à-dire que la dernière expérience qu'ils ont mis en place là, c'est avec nos amis allemands Audi, où c'est grâce à la puissance de calcul des microprocesseurs de Nvidia que les premières, on va dire les
Oui, les premiers véhicules qui se conduisent tout seuls.
Exactement, enfin, on va dire les balbutiements.
Voilà, c'est ça.
Les véhicules autonomes. La conduite autonome, on n'en est pas encore réellement... C'est plus une aide de conduite qu'autre chose. Mais pour faire fonctionner cette aide de conduite, il faut une puissance de calcul énorme. Et c'est ce qui a permis de faire Nvidia. Mais au-delà de ça, qui est vraiment pour l'instant encore de l'ordre du test, etc., Nvidia, c'est les gens qui font que aujourd'hui tout ce qui est dans votre voiture fonctionne, se connecte avec votre smartphone, etc. Donc le microprocesseur, comme dans un ordinateur, comme dans un smartphone, est essentiel dans la voiture de demain. Et en fait, il est déjà essentiel dans la voiture d'aujourd'hui.
Voilà. Et c'est Nvidia qui est en train de rafler ce marché. Hein.
Exactement.
On aurait pu attendre Intel ou on va dire des fabricants historiques, hein, de puissance informatique. Eh bien non. Là, c'est Nvidia. C'est étonnant. Hein.
Exactement, c'est surprenant. Et ce qui est aussi surprenant, c'est que on se retrouve à avoir un communiqué de presse entre Nvidia et Audi.
Ouais, c'est étonnant.
C'est assez surprenant.
Alors, autre, on va dire, pierre angulaire de la voiture de demain, c'est la cartographie, qui est le nerf de la guerre, hein, Guillaume.
Alors, c'est le nerf de la guerre de la voiture d'aujourd'hui, parce que c'est le GPS, mais c'est surtout le nerf de la guerre de la voiture de demain. Pour vous donner un exemple très clair, c'est Sébastien Troon, qui travaille aujourd'hui chez Google, à la voiture sans chauffeur. Alors, Sébastien Troon, ça dit pas forcément quelque chose à tout le monde, mais c'est celui qui a créé Google Street View.
Donc, ah oui.
Google Street View, hein, qui permet de visualiser sur une carte une rue, etc. Et pourquoi c'est important ça, la cartographie aujourd'hui? C'est que pour faire sa voiture sans chauffeur, Google a besoin effectivement de cartes, mais il a aussi besoin de savoir exactement où est la voiture en permanence. Et pour gérer justement cette interaction entre la voiture et son environnement.
D'accord.
Alors, petit rebondissement cet été, hein, on a vu trois constructeurs allemands, donc Audi, BMW et Daimler-Mercedes, se mettre ensemble pour racheter à Nokia une entreprise qui s'appelle HERE,
oui,
qui est en fait la partie cartographique de Nokia.
Nokia avait acheté à prix d'or il y a quelques années de cela, parce que en fait ils voulaient intégrer ça dans leur smartphone, hein, quand Nokia fabriquait encore des smartphones, avant le rachat par Microsoft.
Exactement, et c'est encore une société de la Silicon Valley, hein, puisque c'est historiquement Navtech qui est créé en 87 à Sunnyvale et que effectivement Nokia a racheté en 2008. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? C'est que finalement nos trois constructeurs allemands se sont mis d'accord pour racheter ce système de cartographie pour deux raisons. La première, c'est que ils n'avaient pas très envie d'être ultra dépendants de Google, justement, dont on vient de parler. Donc c'est un move stratégique industriel, puisqu'ils ont déjà annoncé de toute façon qu'ils étaient prêts à l'ouvrir, hein, d'ouvrir le capital, etc., à d'autres constructeurs. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est aussi un moyen pour eux de dire: on a peut-être un peu loupé quelque chose dans les années 2010 sur la cartographie, sur le GPS. Ouais. On n'a pas été capable, nous constructeurs, de nous imposer. On nous aura pas sur la voiture sans chauffeur. On reprend la main sur le sujet. Et ça, c'est vraiment important.
Oui, parce que ça, c'est véritablement l'objectif de tous ces acteurs de l'automobile, hein, la voiture autonome, celle qui se conduira toute seule demain. On sait que Google a pris pas mal d'avance là-dessus, mais tous les acteurs se positionnent sur ce sujet. Merci beaucoup, Guillaume.
Merci.
Guillaume Degroisse, directeur marketing de l'atelier. On revient dans un instant à la suite de cet atelier numérique avec justement notre passion selon Sanette. Apprêtez-vous à aimer votre robot lorsqu'il sera à la maison. On en parle dans une minute, à tout de suite.